jamais mis à se dandiner subitement en entendant une chanson, mais pourquoi? Pourquoi dansons-nous, Pasquale?
Exactement, c'est une excellente question dont on n'a toujours pas la réponse. Par contre, ce qu'on étudie, c'est les mécanismes qui vont favoriser le mouvement, cette danse. Il est clair que la danse engendre du plaisir chez les êtres humains, mais pourquoi certaines musiques vont amener la danse et certaines musiques n'amènent pas la danse? Et on sait déjà depuis les années 2018, c'est une étude qui a été faite en Australie et au Canada, qu'en fait, c'est les rythmes et les très basses fréquences qui incitent à danser. De genre de 130 Hz comme ça, donc très très grave. Et ça incite parce qu'on voit qu'il y a une coordination qui s'installe au niveau cérébral. Lorsqu'on met un électroencéphalogramme, lorsqu'on analyse l'électroencéphalogramme du cerveau des gens qui écoutent cette musique avec leur rythme et basse fréquence, eh bien on voit que le cerveau se synchronise. Et donc on ne sait pas encore très bien pourquoi, mais il y a une synchronisation qu'on n'a pas à haute fréquence. Donc dès qu'on joue des notes très très aiguës, eh bien on n'a pas cet effet.
Donc ça vient de la tête au départ?
Ça vient de la tête, effectivement. Et donc la dernière publication qui analyse ce genre de comportement est parue dans Current Biology du 7 novembre. Et c'est une équipe dont le premier auteur est Daniel Cameron, qui travaille dans le département de génétique et de comportement comparé au Max Planck Institute de Cologne. Et eux ont travaillé sur les basses fréquences pour voir en fait si c'est l'oreille ou s'il y a d'autres mécanismes qui permettent de détecter et d'induire la danse. Et ils ont un très chouette laboratoire qui s'appelle LiveLab, dans lequel ils peuvent effectivement analyser le comportement des individus. Et ils ont organisé un énorme concert du duo Orphix qu'on peut écouter maintenant. Vous voyez ce genre?
Ok, très bien.
Et donc, il y a là énormément de basses, de sons donc très très graves. Et ce que eux ont fait, c'est qu'ils ont rajouté en fait des fréquences ultra basses que l'oreille ne peut pas entendre. C'est-à-dire que toutes les 2,5 minutes, ils envoyaient un signal à travers les haut-parleurs d'à peu près 8 Hz, ce que l'oreille ne détecte pas. Ce qu'ils ont vérifié évidemment avant, l'oreille des êtres humains n'entend pas ces fréquences trop basses de 8 Hz. Par contre, ils ont aussi équipé plusieurs danseurs, en fait 17, d'un petit casque qui permet de mesurer le mouvement de la tête dans les trois directions. Et donc, ils ont analysé chaque fois qu'ils envoyaient ce son à très très basse fréquence, s'il y avait, oui ou non, une augmentation des mouvements des personnes. C'est-à-dire si on dansait plus lorsqu'on recevait ce genre de basse fréquence. Et ils ont constaté qu'effectivement, il y avait une augmentation de plus de 12% de mouvement simplement par l'apparition de ces très très basses fréquences.
Alors même qu'on les entend pas.
Et l'hypothèse, parce que c'était une hypothèse généralement admise, c'est que lorsqu'on danse et qu'on écoute de la musique, il n'y a pas que notre oreille qui entend, mais aussi tout un système d'oreilles internes, ce qu'on appelle le système vestibulaire. Nous avons derrière, dans l'oreille interne, un système qui permet de comprendre le mouvement du corps et donc de se maintenir en équilibre. Et donc, effectivement, ils ont montré que lorsqu'on est à très très basse fréquence, eh bien, cet appareil d'oreille interne, qui est normalement dédié à notre maintien, notre position debout, par exemple, ou assis, eh bien, est en action. Et donc, on est capable de détecter, non pas par l'oreille, en quelque sorte, mais par notre contact, je dirais, notre comportement d'équilibre. De même, nous avons aussi sur notre peau toute une série de détecteurs de contact. Et ceux-là aussi vont être soumis à la pression du son. Puisque le son, il ne faut jamais oublier, c'est une pression qui dit pression, dit une force.
Ils vont vibrer un tout petit
voilà,
peu.
Voilà, donc il y a un contact au niveau de votre peau, il y a un contact au niveau de votre oreille interne qui va amener, et c'est ça qu'ils ont montré dans cet article, une augmentation de votre tendance à danser, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de mouvement que prévu lorsqu'il n'y a pas ces très très basses fréquences.
Et alors, Pasquale, une question un peu peut-être idiote, mais est-ce que ça veut dire qu'une personne sourde peut aussi avoir un peu envie de danser quand il y a de la musique?
Tout à fait. Lorsque vous mettez en contact, il y a des techniques qui permettent par exemple de vous gonfler un ballon, vous parlez sur ce ballon, le ballon va se mettre à vibrer. Si vous mettez cette vibration en contact avec la peau de l'individu qui est sourd, dont l'oreille ne fonctionne pas, eh bien il y aura des sensations. Évidemment, ces sensations seront communiquées par d'autres canaux que l'oreille, évidemment, puisque l'oreille est déficitaire. Mais effectivement, il y a moyen par contact avec votre peau, par exemple, ou grâce à votre mouvement de l'oreille interne, eh bien, il y aura moyen de transmettre au cerveau des informations venant du son, ici en l'occurrence de son très très basse fréquence.
Vous nous avez apporté aussi un petit tableau que les gens qui nous regardent sur Ovio peuvent voir. Il y a de très belles couleurs et puis il y a des plein de noms d'instruments avec des barrettes. Alors, qu'est-ce que si vous voulez nous
décrire, on a là le tableau classique des 88 touches du piano qui vont de la plus basse fréquence qui est 27 Hz, qui est juste un peu en dessous de ce qu'on peut entendre, jusqu'à la plus haute fréquence qui est de l'ordre de 4186 Hz. Et donc là, vous avez l'ensemble des instruments qui peuvent, effectivement, le piano pouvant jouer toutes les touches, il y a tous les sons qui sont possibles, mais certains instruments ne peuvent pas atteindre les très hautes fréquences, hein, prenez la basse ou la guitare simplement, et d'autres ne peuvent pas atteindre les basses fréquences. Et lorsqu'on utilise un instrument, eh bien on va balayer une plage de fréquences possibles. Même chose avec la voix humaine, vous avez des ténors, des contre-ténors, des altos, etc. Et donc ça permet ainsi de comprendre l'ensemble des fréquences audibles, puisqu'on dit généralement que l'oreille humaine n'entend qu'entre 20 et 20 000 Hz maximum. C'est évidemment une surestimation, hein. Ça change avec l'âge, ça change avec le genre de la personne, le sexe de la personne, je veux dire. Et ainsi, on peut ainsi modifier les différentes fréquences et voir comment l'oreille réagit. Notre meilleure écoute est entre 2000 et 5000 Hz. C'est là où notre oreille est le plus sensible. Et l'âge modifie, par exemple, les personnes âgées comme moi, par exemple, eh bien, nous n'entendrons plus du tout les hautes fréquences, tandis que les ados l'entendent. Et c'est pour ça qu'on avait interdit en Belgique l'utilisation de petits sons extrêmement aigus qui ne perturbaient que les adolescents.
Oui,
et que les adolescents ont mis ça aussi dans leur sonnerie, de telle façon à ce que le prof n'entende pas que son téléphone sonne.
Effectivement. Merci Pasquale Nardone pour cette chronique.